En général, les personnes qui lèvent le poing en direction du ciel font ce geste suite à une grosse tuile qui leur est tombée sur la tête. Dieu ne leur en tiendra pas rigueur parce qu'ils sont submergés par leur douleur. Ils sont comme dans un état second et ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Mais il en est tout autre pour ceux qui, la main levée, s'attaquent à l'Éternel et aux siens en toute connaissance de cause. Leur sort est décidé d'avance. Ils mordront la poussière et subiront le châtiment éternel. De ce nombre est Judas, bien sûr, mais aussi le tyran grec Antiochus IV Épiphane. Je continue de lire dans le chapitre 8 du livre de Daniel. Elle, la petite corne, bouleversera son sanctuaire jusqu'en ses fondations. En l'an 70 avant Jésus-Christ, à son retour d'une expédition en Égypte, Antiochus Épiphane ravage la ville et le temple de Jérusalem et assassine le grand prêtre Onias III. Le livre des Maccabées décrit l'événement que je résume. Antiochus monta à Jérusalem, entra dans le sanctuaire et en ôta l'autel d'or, le chandelier avec tous ses ustensibles, la table des pains de proposition, les coupes, gobelets et écuelles, le rideau, les couronnes et les ornements d'or sur le devant du temple. Il prit aussi l'argent et l'or et les vases précieux et les trésors cachés qu'il trouva. Et après avoir fait un grand carnage et proféré des paroles insolentes, il emporta tout et rentra dans son pays. Deux années plus tard, le roi envoya un commissaire de contribution dans la ville de Juda. Celui-ci arriva à Jérusalem avec beaucoup de troupes et trompa les habitants par des paroles amicales. Et ceux-ci le reçurent sans méfiance. Puis tout à coup, il se jeta sur la ville, fit main basse sur le peuple et tua beaucoup d'Israélites. Il pilla la ville, y mit le feu, abattit des maisons et démolit les murs d'enceinte. Il amena en captivité les femmes et les enfants et s'empara du bétail. Puis, on construisit à la ville de David une grande et forte muraille avec de puissantes tours. Ce fut leur citadelle. On y mit une garnison païenne, des gens sans foi ni loi. À cause d'eux, les habitants de Jérusalem prirent la fuite et des étrangers s'y établirent. Le 15e jour de Kislev, de l'an 145, ils construisirent l'abomination de la désolation. Sur le grand autel, c'est-à-dire celui des holocaustes, et dans toutes les villes de Juda alentour, ils construisirent des autels. Le 25 du mois, ils sacrifiaient sur l'autel qu'ils avaient mis sur le grand autel. Durant toute son histoire mouvementée, le peuple d'Israël a enduré des souffrances sans fin et ont tenté de le faire disparaître de la surface de la terre à plusieurs reprises. La raison principale de ces multiples afflictions est leur révolte contre l'Éternel, leur Dieu. La rébellion contre son Créateur se paye toujours au prix fort, et seule la repentance et l'acceptation du pardon en Jésus-Christ arrête le jugement de Dieu. Je continue le texte. À cause de la révolte du peuple contre Dieu, l'armée fut livrée au pouvoir de la corne et le sacrifice perpétuel lui fut abandonné. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans tout ce qu'elle entreprit. Comme la plus grande partie des Israélites est infidèle à l'Éternel, quand l'infâme Antiochus Épiphane arrive sur scène, c'est sans état d'âme qu'ils trahissent Dieu et acceptent les exigences de ce nouveau tyran. Pour eux, ce n'est pas la mer à boire que d'abandonner le culte de l'Éternel et de se lancer à fond dans l'idolâtrie. La vérité jetée par terre signifie que la loi de Moïse et le culte du vrai Dieu sont remplacés par des pratiques païennes. Nous avons un compte-rendu de ce qui s'est passé dans le livre apocryphe des Maccabées. Je lis le passage. Dans ces temps-là, il y eut parmi les Israélites des gens perverses qui, en entraînant beaucoup d'autres, en disant « Allons faire alliance avec les peuples qui nous entourent, car depuis que nous sommes séparés d'eux, il nous est arrivé beaucoup de malheurs. » Ce discours trouva des approbateurs et plusieurs se hâtèrent de se rendre auprès du roi Antiochus, qui leur ordonna d'introduire les coutumes païennes. Ils construisirent donc à Jérusalem un édifice selon les usages des païens, et devenant apostats à l'égard de l'Alliance sainte, ils cherchèrent à faire disparaître les marques de la circoncision et s'associèrent aux païens au service desquels ils se mirent pour faire le mal. Beaucoup de gens du peuple, abandonnant la loi, se rallièrent aux Syriens et pratiquèrent le mal dans le pays et réduisirent les Israélites à se cacher dans toutes sortes de lieux de refuge. Tous les Israélites qui, jusqu'à présent, sont restés sur la touche, ainsi que ceux qui obéissent au rituel de la loi de Moïse, par respect pour les anciens, par habitude ou par tradition, écoutent le nouveau son de cloche et se rallient à Antiochus Épiphane. Étant devenus infidèles, l'Éternel abandonne son peuple entre les mains de ce tyran qui, pendant un temps donné, réussit à faire tout ce qu'il veut. Quelqu'un a dit, « Si impossible que cela puisse paraître, Dieu laisse aller le diable jusqu'à la longueur de sa chaîne. » Cette portion de la vision de Daniel anticipe donc la venue d'Antiochus, un despote issu de l'Empire grec qui a servi le peuple d'Israël. Pendant les 4 dernières années de son règne, Antiochus persécute cruellement les Juifs. Il met à mort tous ceux qui lui résistent et interrompt le culte à l'Éternel en faisant cesser les 2 holocaustes quotidiens. En l'an 67, environ 3 ans avant sa mort, Antiochus profane le temple de Jérusalem en y entrant avec une statue le représentant, puis il offre un cochon sur l'autel des holocaustes et exige d'être adoré comme Dieu. Je continue le texte. J'entendis alors l'un des saints anges parler, puis un autre saint ange lui demanda « Jusqu'à quand dureront les événements annoncés par cette vision ? Jusqu'à quand le sacrifice perpétuel sera-t-il supprimé ? Et la révolte qui cause la dévastation sévira-t-elle ? Pendant combien de temps le sanctuaire et l'armée seront-ils livrés au pouvoir de la corne et foulés aux pieds ?» Apparemment, Daniel brûle d'envie de demander des explications pour plus complètes à l'ange qui lui parle. Alors, un autre ange se fait l'interprète du désir de Daniel et pose la question à sa place. L'infidélité morale du peuple élu est la véritable cause de la désolation du pays, au moins de l'infâme Antiochus, qui, sans le savoir, est l'instrument de Dieu pour châtier son peuple idolâtre. Je continue avec la réponse du premier ange. L'autre ange me dit, pendant 1150 soirs et 1150 matins, puis le sanctuaire sera de nouveau consacré au culte. Selon la loi de Moïse, matin et soir, les Israélites doivent offrir un holocauste à l'Éternel. C'est ce qui se nomme le sacrifice perpétuel. Il est supprimé pendant un peu plus de 3 années lunaires, de 365 jours chacune, ce qui fait exactement 3 ans, 2 mois et 10 jours. On sait qu'en 175 avant Jésus-Christ, après avoir assassiné son frère, qui est l'héritier légitime du trône de la dynastie des Séleucides, Antiochus devient roi. 5 ans plus tard, le pharaon Ptolémée VI essaye de conquérir des territoires sous contrôle syrien. Antiochus l'attaque, défait l'Égypte et se proclame son nouveau roi. C'est ce qui correspond à la vision de Daniel quand il a vu la petite corne grandir démesurément vers le sud. Après cette campagne militaire, et alors que Antiochus est sur le chemin du retour, des troubles éclatent à Jérusalem parce que les Juifs veulent secouer le joug qui pèse sur eux. Antiochus envahit alors la ville sainte, pille le trésor du temple et assassine le grand prêtre. Puis, il persécute les Juifs pendant 6 ans. En l'an 168, Antiochus retourne en Égypte. Mais cette fois-ci, ça se passe très mal pour lui, car les Romains y sont et le forcent à quitter le pays. À son retour, il attaque une nouvelle fois Jérusalem, brûle et détruit plusieurs quartiers de la ville et assassine des multitudes. Sous peine de mort, les Juifs ne peuvent plus circoncire leurs fils, suivre la loi de Moïse, observer le sabbat et les fêtes annuelles. ni offrir les sacrifices traditionnels. L'année suivante, en l'an 167, le 25 du mois qui s'appelle Kislev et qui correspond à la mi-décembre, Antiochus profane le temple de Jérusalem en offrant un sacrifice au faux dieu syrien, Baal des cieux, identifié à Zeus. Les Juifs sont alors forcés d'offrir des animaux impurs sur l'autel installé par Antiochus et de consommer du sang de porc, et ceux qui refusent sont sommairement exécutés. Mais entre-temps, la famille de prêtres, les Maccabées, à laquelle se joignent des Israélites fidèles à l'Éternel, prennent les armes et organisent une guérilla incessante et efficace contre les troupes syriennes qui occupent leur pays. Exactement 3 ans après la profanation du temple, le 25 du mois de Kislev de l'an 164, le temple est purifié et consacré à l'Éternel par Judas Maccabée, surnommé le Marteau, parce qu'il a vaincu les Syriens. Le temps pendant lequel Antiochus fait cesser le sacrifice perpétuel, c'est-à-dire les 2 holocaustes quotidiens, s'étend sur 1150 soirs et matins. Cette période, qui a commencé 2 mois et 10 jours avant la profanation du temple, s'est achevée le jour où Judas Maccabée l'a restauré, purifié et consacré. Depuis tous les ans, les Juifs rappellent cet événement en célébrant la fête des Lumières, appelée Hanouka. On trouve cette fête dans les évangiles où elle est appelée fête de la consécration ou de la dédicace. Elle ne fait évidemment pas partie des fêtes obligatoires selon la loi de Moïse, puisque le personnage d'Antiochus, les persécutions qu'il a menées contre les Juifs, ainsi que la défaite de ses troupes et la remise en fonction du Temple de Jérusalem sont des événements qui eurent lieu pendant une période de temps qui sépare l'Ancien du Nouveau Testament. Je continue le texte. Pendant que moi, Daniel, je contemplais cette vision et que je cherchais à la comprendre, je vis debout, devant moi, un être ayant l'aspect d'un homme. L'expression traduite par « l'aspect d'un homme » est littéralement « le puissant de Dieu » et a donné le nom Gabriel en français. C'est la première fois que, dans les Écritures, un ange est appelé par son nom. Cet homme, il n'en est pas un, est en réalité un être surnaturel à qui Dieu parle et qui a la puissance nécessaire pour exécuter les œuvres divines. Je continue. Et j'entendis une voix d'homme venant de Loulaï qui appelait et disait « Gabriel, explique-lui la vision ». Loulaï est un fleuve situé à l'est de la ville de Suse. Celui qui parle de son milieu est un être supérieur à Gabriel puisqu'il lui donne un ordre. Il s'agit probablement de l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire une préincarnation de Jésus-Christ. Je continue. Celui-ci s'avança vers l'endroit où je me tenais. À son approche, je fus pris de frayeur et je tombai face contre terre. Il me dit, « Fils d'homme, comprends bien que cette vision concerne un temps de fin. » Daniel est tellement impressionné par la majesté de l'ange Gabriel, qui est l'aide de camp et le bras droit de Dieu, pour ainsi dire, qu'il en tombe à la renverse, ou plutôt en avant. Le comportement de Daniel s'explique aussi par le fait qu'il s'attend à d'autres mauvaises nouvelles. Gabriel commence donc par le rassurer en l'informant que les malheurs qu'il a vus n'aura pas lieu de son vivant, mais concerne un temps de fin, une expression qu'il faut bien distinguer de la fin des temps. En effet, je ne me coupe pas les cheveux en 4. Un temps de fin désigne une période future particulière de l'histoire. Par rapport à Daniel, et non pas la fin des temps, proprement dite. Quand l'Antichrist fera son apparition, régnera pendant quelques années, puis sera détruit par la venue du Christ qui établira alors son royaume de 1000 ans sur terre. Ce temps de fin a eu lieu sous la domination de la troisième bête de la vision de Daniel, qui est l'Empire grec. Alors que le temps de la fin se déroulera sous la quatrième bête et la troisième forme de l'Empire romain et concerne la fin de l'humanité telle que nous la connaissons. Ce temps de fin est aussi un avant-goût de ce que sera la fin des temps. D'ailleurs, le monstre Antiochus Épiphane et l'Antichrist sont tous deux appelés la petite corne. Je continue. Pendant qu'il me parlait, je perdis connaissance et tombai face contre terre, mais il me toucha et me remit debout sur place. S'évanouir est une attitude relativement banale et courante de la part d'un homme quand il se trouve face à face avec un être céleste. Il faut dire qu'on ne plaisante pas trop avec les anges parce qu'ils ne semblent pas posséder le sens de l'humour. Quand Gabriel est descendu annoncer au prêtre Zacharie qu'il aurait un fils, ce dernier se montre sceptique. Alors, avant de lui annoncer qu'il serait muet, Gabriel s'est identifié sur un ton qui, j'en suis même sûr, ne tolère aucun commentaire ni aucune réplique. Il lui a dit « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu qui m'a envoyé pour te parler et t'annoncer cette nouvelle. En d'autres mots, tu la fermes et tu m'écoutes. » Je continue le texte. Puis, il, Gabriel, me dit « Je vais te révéler ce qui arrivera à la fin des temps de la colère divine, car un terme lui a été assigné. Il s'agit de la période pendant laquelle Dieu châtie son peuple parce que dans sa majorité, il lui est infidèle. Comme je l'ai déjà dit, la venue de la petite corne, c'est-à-dire Antiochus, est un jugement contre Israël parce qu'il a abandonné la loi de Moïse et pratique l'idolâtrie. Le châtiment du peuple élu va durer le temps des nations qui a commencé quand Nabucodonosor a détruit Jérusalem et le Temple, et qui s'achèvera quand Jésus reviendra dans la gloire, détruira l'Antichrist et instaurera son royaume de 1000 ans. Il faut noter que dans la vision de Daniel, qui concerne l'Empire grec et Antiochus Épiphane, ce dernier préfigure l'Antichrist, un tyran bien pire et beaucoup plus puissant et qui sera au pouvoir à la fin des temps, alors qu'Antiochus a régné pendant un temps de faim qui, par rapport à nous, a déjà eu lieu. Je continue. Le bélier à deux cordes que tu as vu représente les rois de Médie et de Perse. L'ange commence maintenant à donner l'interprétation de la vision que Daniel a eue. Le bélier a été décrit comme ayant deux cornes, mais la deuxième corne, qui a poussé tardivement, est plus grande que la première. Tout d'abord, les Mèdes dominent les Perses, leur allié. Mais au fil du temps, les rôles sont inversés et ce sont les Perses qui dominent les Mèdes. Ce renversement de force est aussi symbolisé par l'ours qui se dresse sur un côté. Les Mèdes et les Perses se sont emparés du territoire de l'Empire babylonien. Et grâce à leur immense armée forte de 2 millions d'hommes, ils se sont étendus dans trois directions, à l'ouest, au nord et au sud. Je continue. Le bouc relu, c'est le roi de Grèce, et la grande corne entre ses yeux représente le premier de ses rois. Précédemment, dans la vision de Daniel, la Grèce est décrite sous la forme d'un léopard muni de 4 ailes et de 4 têtes. Le bouc, qui représente aussi la Grèce, s'est attaqué au bélier que représentent les Mèdes et les Perses, et l'a terrassé grâce à sa grande corne qui est Alexandre le Grand. Ce roi a hérité le trône de son père Philippe II de Macédoine, qui avait plus ou moins unifié les villes-états de la Grèce, à l'exception de Sparte qui continue à faire cavalier seul. Cependant, le premier, et on pourrait dire le seul grand roi grec, est sans conteste Alexandre le Grand. Daniel a vu le bouc arriver de l'Occident. Et effectivement, Alexandre vient de la Macédoine, rapide comme l'éclair, ou plutôt comme un léopard muni de 4 ailes. Et en 2 temps 3 mouvements, c'est-à-dire en l'espace d'environ 8 ans, son armée parcourt 18 000 kilomètres et conquiert un immense territoire qui va de la Grèce aux Indes. Voilà comment il s'y est pris. En l'an 336, avant Jésus-Christ, Philippe II de Macédoine est assassiné et Alexandre, son fils, devient roi. Mais il est entouré d'ennemis, et les villes, sous sa coupe, menacent de se rebeller. Alexandre comprend qu'il lui faut aller très vite. Il commence à faire exécuter les conspirateurs qui ont tué son père, puis, comme la meilleure défense est l'attaque, il fait la guerre aux villes rebelles. À la fin de l'été 336, Alexandre est le grand patron et devient général de l'armée grecque en 335. Il écrase alors plusieurs états vassaux qui se sont révoltés, ainsi que la ville de Thèbes, et vend tous ses habitants en esclavage, ce qui met un terme à toute rébellion. Après avoir fait le ménage et rétabli l'ordre dans le petit empire de son père, Alexandre regarde en direction de la Perse. En 334, à la tête d'une petite armée de 35 000 hommes, il traverse le détroit des Dardanelles, qui est situé entre la Méditerranée et la mer Noire. Arrivé près de l'ancienne ville de Troie, il attaque et défait complètement une armée de 40 000 hommes composée de Perses et de Grecs mercenaires. Suite à ce premier exploit, toute l'Asie mineure, la Turquie, s'incline devant lui. Il descend alors vers le sud et, en cours de route, il rencontre le gros de l'armée perse commandée par Darius III qu'il écrase dans le nord-est de la Syrie, à Issus. Le roi perse s'enfuit en laissant sa famille derrière lui, mais Alexandre, magnanime, le traite avec tous les égards dus à leur rang. Après ce succès éclatant, il attaque la ville de Tyr, qui lui résiste, mais qu'il prend d'assaut en 332 après un siège de 7 mois. Il capture ensuite la bande de Gaza, puis arrive en Égypte, où on l'accueille en libérateur. Il y fonde Alexandrie, qui deviendra célèbre. Les villes de Cyrène en Libye et de Carthage dans le golfe de Tunis se soumettent à lui. Il domine dorénavant toute la Méditerranée, mais cet accomplissement n'est qu'un prélude à sa voracité. Il se prépare à conquérir tout ce qu'ont possédé les empereurs qui l'ont précédé, mais néglige l'essentiel. En effet, Jésus a dit « Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?»